Merci d'écouter les matinales week-end d'Europe 1, ça inclut les journaux bien sûr, aux demi et aux heures. Et puisqu'il est pile 7h, je laisse le micro bien volontiers à Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1.
Sur 2 mois, il a transmis 46 communiqués. Donc clairement, cette situation l'a favorisé en termes de communication et en termes d'occupation du terrain.
La lutte contre le coronavirus va-t-elle servir les maires sortants dans la course aux municipales? Les oppositions s'en inquiètent et dénoncent une campagne déséquilibrée.
Lancement réussi hier soir pour la fusée privée américaine SpaceX. Le secteur privé vient de s'ouvrir tout grand les portes de l'espace.
Dans ce journal aussi, les TPE, première demandeuse des prêts garantis de l'État.
Et puis un chef étoilé à domicile, s'il vous plaît.
Petit problème technique. Voilà. Vous allez pouvoir commencer la dégustation avec ce petit gazpacho de concombre de notre maraîcher Damien.
Ou comment certains restaurateurs, petits et grands, ont dû se diversifier pour faire face à la fermeture de leur établissement. Reportage à suivre dans cette édition.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce sera dans 4 semaines maintenant le second tour des élections municipales dans les quelques 5000 communes, souvent les plus grandes, où le scrutin du 15 mars n'a pas permis de départager les candidats. Jusqu'au 28 juin donc, une campagne sans meeting, ni porte-à-porte à cause de la situation sanitaire.
La crise du coronavirus dont certains candidats redoutent qu'elle ne profite mécaniquement aux maires sortants, des élus en première ligne ces dernières semaines. Illustration par exemple à Montargis dans le Loiret, où s'est rendu pour Europe 1, Claudia Bertram.
C'est lui qui est en première ligne. On voit le maire qui fait ci, on voit le maire qui fait ça. Puis pendant ce temps-là, l'opposition, elle est confinée.
Pour Bruno Notin, dont la liste d'Union des Gauches est arrivée en deuxième position à Montargis, la crise du coronavirus a créé un déséquilibre en faveur du maire sortant. Même constat pour Édouard Weber, arrivé troisième avec sa liste citoyenne.
Le maire en place n'est pas forcément responsable de ce déséquilibre, mais c'est une réalité. Sur 2 mois, il a transmis 46 communiqués pour aider effectivement tous les Montargois à passer au mieux le cap. Donc clairement, cette situation l'a favorisé en termes de communication et en termes d'occupation du terrain.
Un déséquilibre d'autant plus compliqué à compenser que la campagne sera limitée pour respecter les règles sanitaires. Ni meeting, ni porte-à-porte, ni réunion publique. Le maire sortant LR, Benoît Dijon, se défend d'avoir tiré profit de la situation.
On était dans une action de maire, de responsable. Le maire en place, tout le monde raconte qu'il a des avantages. Je peux vous dire qu'il y a laissé des plumes aussi parce qu'on a été très très occupés, c'était très stressant et j'avoue qu'on n'est pas dans ces calculs-là.
La campagne d'entre-deux-tours, habituellement très courte sur quelques jours seulement, rappelle le maire sortant, a déjà débuté et laissera donc près d'un mois aux candidats pour se relancer dans la bataille électorale.
Mardi, les candidats devront avoir déposé leur liste, les tractations se poursuivent sans succès à Lille et à Paris. À Lille, Martine Aubry fait savoir qu'elle ne s'alliera pas avec les Verts contre la candidate de La République En Marche. À Paris, négociations à l'arrêt entre Anne Hidalgo et Cédric Villani.
Mais pas forcément à l'arrêt entre Madame Hidalgo et le candidat écologiste. On va en reparler à 8h15 avec Monsieur Grégoire, qui est le premier adjoint à la mairie de Paris. Il sera l'invité de la matinale d'Europe 1.
Aux États-Unis, après 4 nuits d'émeutes, la police a chargé les manifestants ayant bravé le couvre-feu à Minneapolis. Couvre-feu également décrété à Los Angeles, Atlanta ou Philadelphie. Les protestations contre les violences faites à la population noire américaine s'étendent donc après la mort mardi de George Floyd lors d'une interpellation.
Les États-Unis entre colère donc et fierté aussi, car dans un tout autre domaine, le pays, hier soir, a regagné une partie de sa souveraineté.
Et oui, après avoir dû compter sur les Russes pendant 9 ans, les Américains sont parvenus à envoyer 2 astronautes dans l'espace depuis leur sol à bord d'une fusée de la société SpaceX. Un lancement historique à plus d'un titre d'ailleurs, comme l'explique le consultant scientifique d'Europe 1, Alain Sirou.
C'est l'Amérique à nouveau. Retrouver l'accès indépendant à l'espace avec une fusée américaine, une capsule américaine et des astronautes américains, c'était évidemment le challenge de cette mission. Mais c'est plus encore une nouvelle ère qui s'ouvre puisque la NASA était la seule auparavant à organiser l'ensemble des vols spatiaux. Là, il s'agit pour la première fois d'une coopération entre le public et le privé. On peut penser vraisemblablement que dans les mois qui viennent, de riches voyageurs paieront pour accéder à la station avec justement ce taxi, cette capsule privée. Donc c'est un tournant dans l'histoire de l'espace, c'est l'ouverture aux activités privées du vol spatial qui était jusqu'à présent réservée aux États.
Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction de la revue Ciel et Espace avec Roman Hockey pour Europe 1, SpaceX, dont le patron Elon Musk vise maintenant rien de moins que l'établissement d'une civilisation sur Mars.
Mais ce ne sera pas pour demain, je vous rassure, Marion Calais. Plus terre à terre à présent, le succès des prêts garantis par l'État pour aider les entreprises à faire face à la crise du Covid-19. Plus d'un demi-million de dossiers tout de même ont été déposés. Les précisions pour Europe 1 d'Emmanuel Duteil.
Le plus gros des demandes de prêts est derrière nous. Voilà ce que l'on dit de sources bancaires. En effet, les entreprises sont moins nombreuses à se porter candidates. Pour vous donner une idée, les dossiers qui arrivent en ce moment représentent des demandes d'1,5 milliard d'euros de prêts par jour. On était plutôt à 2,5 milliards ces dernières semaines. Alors ça s'explique assez simplement. Les entreprises ont quasiment toutes demandé dès le début et en même temps cette aide. Pour le moment, près de 80 milliards d'euros de prêts ont été accordés. En fonction de la demande actuelle, on pense que l'on va doubler ce montant, mais on sera très loin des 300 milliards provisionnés par l'État, dit-on toujours de sources bancaires. L'État avait vu gros pour être sûr de couvrir tout le monde. La quasi-totalité des dossiers émane des TPE, plus de 400 000 prêts à elles seules. 21 000 PME ont été aidées et 6 grosses entreprises. Du côté des banques, on assure que les entreprises qui n'arrivent pas à avoir ce prêt comme Conforama en ce moment sont des entreprises qui auraient eu du mal à passer la crise sans cette aide.
Et par ailleurs, pour aider le tourisme en Outre-mer, la ministre Annick Girardin a promis une expérimentation très rapidement pour alléger la quatorzaine imposée aux voyageurs arrivant. Un test pourrait leur être imposé avant une quarantaine de 7 à 14 jours.
La suite de ce journal, dans un court instant, nous allons parler de la messe de la Pentecôte. Forcément un peu particulière, cette messe 2020. A tout de suite.
7h06 sur Europe 1.
Europe 1.
Reprise de l'actualité avec Marion Calais et Bernard Porrette.
Tout sera différent et l'humanité ressortira de la pandémie meilleure ou pire. Le message du pape François hier à l'occasion de la Pentecôte.
Le souverain pontife qui a célébré pour la première fois depuis près de 3 mois une messe en public avec une centaine de fidèles dans les jardins du Vatican, un peu partout à travers le monde d'ailleurs. Les fidèles renouent avec ces cérémonies religieuses.
Ça va être le cas par exemple aujourd'hui à la cathédrale Notre-Dame de la Treille dans le Vieux-Lille où s'est rendu Maximilien Carlier. Pour Europe 1.
Des chaises vides, condamnées avec un autocollant sans interdit, du gel hydroalcoolique à l'entrée, un sens de circulation, capacité d'accueil limitée, ça sera 200-250 personnes, pas plus.
La seule inconnue qu'on ait, c'est le surnombre.
L'abbé Bruno Marie est recteur de la cathédrale.
C'est jamais agréable pour un pasteur de refuser des gens. Et puis c'est à l'encontre de ce qu'est la messe qui est par définition une rencontre publique. Et qui est ouverte à tous. Je pense que ça se passera bien parce que les gens sont très heureux de revenir. Ça, ça aide beaucoup.
Mais il y a des règles à respecter, masque obligatoire et le don de l'hostie sera différent, comme l'explique Mgr Ulrich, c'est l'archevêque de Lille.
Il y a des personnes qui ont gardé cette habitude de communier sur la langue et là, la langue risque d'être transmettrice de virus. Donc on a fait savoir à tout le monde qu'il n'était pas possible de communier autrement que dans la main, de recevoir l'hostie dans la main.
Et selon l'archevêque, certains fidèles plus fragiles n'oseront pas venir par peur d'attraper le virus. Ils pourront tout de même suivre la messe sur le site internet du diocèse. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Pardonnez-moi Maximilien, je vous ai parlé dessus. À Jérusalem, réouverture ce matin de l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam. Elle était fermée depuis plus de 2 mois.
C'est une profession qui a dû se réinventer ces dernières semaines. Obligée de fermer pendant le confinement, certains restaurateurs ont opté pour la livraison à emporter et d'autres se sont lancés dans la cuisine à domicile. C'est le cas de David Gallienne, candidat demi-finaliste de l'émission Top Chef, chef une étoile installée à Giverny. Pierre Herbulot l'a suivi lors de l'une de ses prestations pour Europe 1.
Bonjour messieurs, dames.
Bonjour, merci.
On va à la cuisine.
Le chef David Gallienne pose une grande caisse sur un petit plan de travail. À l'intérieur, toutes les préparations pour un menu de son restaurant à la maison. Il n'y a plus qu'à dresser et peaufiner quelques cuissons.
Petit problème technique.
Enfin, si la gazinière joue le jeu.
Voilà. Vous allez pouvoir commencer la dégustation avec ce petit gazpacho de concombre de notre maraîcher Damien. Tartare.
Ces repas à domicile permettent tout juste de ne plus perdre d'argent, raconte le chef en terminant son risotto d'asperges.
Économiquement, ça ne remplace pas l'activité au restaurant, mais ça permet permet en tout cas de préserver aussi quelques emplois. Pour ça, il fallait trouver des solutions et celle-là en fait partie.
Dans la salle à manger, Constance et Xavier viennent de finir leur tarte aux fraises revisitée. Ils voulaient marquer le coup pour leurs 30 ans de vie commune.
On s'est régalé du début jusqu'à la fin.
On était à la maison parce que c'est l'ambiance de la maison. Mais malgré tout, ça reste des assiettes de très haut niveau.
Un restaurant en avant-première, en quelque sorte.
Moi, je suis plutôt excité quant à l'idée de réouvrir. Les mesures sanitaires qui vont être mises en place ne me font pas peur. On est prêts et impatients.
Comme une dernière répétition pour le chef avant la semaine prochaine.
Merci de m'avoir accueilli dans vos cuisines.
Avec grand plaisir.
Giverny, Pierre Herbulot, Europe 1.
Excellent, Pierre Herbulot. J'espère qu'il s'est régalé, le camarade.
J'imagine.
Pierre. Merci à vous, Marion Calais, pour ce journal de 7h. Revenez faire aussi bien, voire mieux à 8h.
À tout à l'heure.